Donc, je vais partager mon écran. Vous me direz si vous voyez bien un écran avec Abraham. Et comme titre, Abraham, croire, obéir et espérer. C'est bon pour tout le monde?
Oui, c'est bien.
Voilà.
Eux, ils ne peuvent pas te répondre parce qu'ils ont coupé leur micro.
Voilà, très bien. Non, non, mais si tu vérifies juste que ça marche bien. Bon, écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis ravi de. Qu'on puisse avoir un vals. Alors, c'est vrai que c'est moins, comment dire, moins convivial, hein, forcément. C'est les protocoles sanitaires, toutes ces choses qui nous sont arrivées ces derniers mois qui nous l'imposent. Mais voilà, malgré tout, ce sujet d'Abraham, il me tient vraiment à cœur et je serais content ce matin si vous pouvez participer avec moi à ce parcours. Alors, Abraham, c'est un sujet que déjà auquel j'avais pensé il y a déjà pas mal de temps. Et puis, je ne l'ai pas fait l'année dernière, mais je l'intitule finalement Croire, obéir et espérer. Alors, à travers la vie d'Abraham, nous allons voir différentes choses. Abraham, il est surtout connu, enfin bien connu, et les peintres l'ont représenté à travers la question du sacrifice d'Isaac. On voit ici l'ange qui retient la main d'Abraham au moment où il va sacrifier son fils. Voilà, et donc on verra d'autres représentations d'ailleurs de cette scène, qui ont inspiré un certain nombre d'artistes. Alors, pourquoi Abraham? Quelle est la raison de choisir cet homme de Dieu plus qu'un autre? Parce qu'on peut faire plusieurs biographies intéressantes, hein, dans l'écriture. On a des hommes de Dieu dont la vie est déclarée et décrite de manière détaillée. Alors, d'abord, nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes. Et je pense que c'est une raison pour laquelle nous allons étudier la vie d'Abraham, parce que nous allons voir que Abraham, lui aussi, a été mis devant l'incertitude, hein, par l'appel de Dieu. Nous ne voyons également pas grand-chose de tangible du royaume de Dieu. Il nous faut vivre par la foi. Au fond, si nous réfléchissons aux choses tangibles, je dirais scientifiquement mesurables, qu'on puisse mettre en évidence, on pourrait à certains moments se dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se monter la tête avec de l'autosuggestion ou de l'autoproclamation. Au fond, c'est ça la foi, c'est de vivre en ne voyant pas grand-chose de visible et de tangible. Et ça a été le cas partiellement d'Abraham. Nous verrons pourquoi je dis partiellement. Ensuite, Abraham est appelé le père des croyants. C'est quelqu'un qui est respecté dans les trois religions monothéistes du Moyen-Orient, hein. J'ai cité donc là. Le judaïsme, bien sûr, où il a une place très importante, le christianisme, et puis mais également l'islam, même si l'interprétation qu'on donne à l'islam n'est pas, bien sûr, exactement en ligne avec ce qu'en dit la Bible. La vie d'Abraham nous impressionne, hein, et notamment ce sacrifice qu'il a été prêt à faire, puisque là nous voyons partir avec Isaac et charger le bois. Pour partir vers ce sacrifice. Et quelque part, on peut bien dire que finalement, le fait que la vie d'Abraham nous impressionne, à la fois ça nous attire de comprendre comment vivait Abraham, mais en même temps on se dit, mais je ne serai jamais à la hauteur, je ne pourrai jamais en arriver à ce qu'Abraham a vécu, il est d'une certaine manière inaccessible pour moi. Et donc, c'est ce que je voudrais montrer ce matin, c'est qu'Abraham, il y a plein de leçons pour notre vie. Qui font qu'il est intéressant d'étudier sa vie. Et puis, voilà, je l'ai dit, nous aimerions être comme lui. Alors, comment aborder la vie d'Abraham? C'est pas très simple. On peut partir, bien sûr, de la longue séquence narrative de Genèse 11 à 25. Donc, si vous avez du courage et puis si vous prenez vos notes, vous pouvez dresser un plan du déroulé de la vie d'Abraham. Mais le simple fait de lire tous ces chapitres est déjà assez prenant et on risque de pas avoir une vision assez synthétique de sa vie, de voir sa vie comme un ensemble de tableaux, les tableaux narratifs de la Genèse. Abraham est mentionné également dans le Nouveau Testament, il est mentionné à beaucoup d'endroits, mais il est mentionné notamment avec des éléments biographiques dans Actes 7, donc la prédication d'Étienne, Galates 3 et Hébreux 6. Et il y a un résumé de sa vie parmi la galerie des portraits, ce que j'appelle la galerie de portraits, et la galerie des héros de la foi dans Hébreux 11. Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est on va partir du résumé d'Hébreux 11 pour éclairer l'ensemble de sa vie. Vous savez que Paul dit aux Corinthiens que les événements qui sont arrivés dans l'Ancien Testament ont été pour notre instruction. Et je crois que nous pouvons appliquer cela aussi à ces résumés qui sont dans Hébreux. Et donc, à partir d'Hébreux 11 qu'on va lire, on va ensuite revenir sur certains des éléments qui sont dans ces chapitres narratifs. On va essayer d'être complet, mais on ne sera bien sûr pas exhaustif, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas louper d'éléments essentiels de la vie d'Abraham, mais on ne pourra pas bien sûr rentrer dans chacun des détails. Et donc, je vais lire dans la traduction second 21 le texte central, notre texte central ce matin. Donc, je vous propose de laisser votre Bible ouverte sur ce texte-là, et puis on fera quelques incursions dans la Genèse. Hébreux 11, donc versets 8 à 19 et versets 39 à 40. Je lis donc, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Nous continuons. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.
Je vais le faire tout de suite. Dis-moi comment est-ce qu'il faut que je le mette.
Ceux qui
sont étrangers pour la mer.
Pour la mettre où tu la mets en prélude. Parce que toi, les voitures qui sont complètement à la gauche, hein,
ouais,
elles ne peuvent pas partir.
Ouais.
Donc il faut que les voitures soient garées dans le.
Oui, c'est garé comme ça.
Pas de problème. Dans le bon sens pour pouvoir évacuer.
Mais dis-moi où est-ce que vous allez.
Roumanian, s'il vous plaît, si vous pouvez fermer le son pendant que je continue la lecture. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est bien, on vient d'avoir une illustration. On est étranger, voyageur sur la terre, il faut toujours être prêt à partir avec la voiture dans le bon sens. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée ». Il pensait que Dieu était capable même de ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Et puis un peu plus loin, à la fin du chapitre 11 de Hébreux, un paragraphe qui concerne tous les héros de la foi, mais qui inclut donc bien sûr Abraham et Sarah. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, ainsi il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Alors, première chose que fait Abraham, Abraham croit et obéit à l'appel de Dieu, quoi qu'il en coûte. Alors, quoi qu'il en coûte, j'ai repris une expression de nos présidents et ministres qui s'engagent dans la crise sanitaire à faire tout ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte, pour notre sécurité, pour notre bien-être. Et Abraham, nous allons voir que sans compter à la dépense, il obéit à l'appel de Dieu. Alors, j'ai été frappé en lisant plusieurs reprises ces chapitres narratifs de la Genèse dans les versets 11 à 25, de voir qu'on parle souvent de la promesse d'Abraham et quelque part, on se souvient bien souvent de la toute première qui est dans Genèse 12, où Abraham reçoit son appel. Mais il est intéressant de voir que Abraham a reçu des promesses qui lui ont été répétées, c'est-à-dire que Dieu s'est adressé à lui à plusieurs reprises, on reviendra là-dessus, c'est important, mais Dieu lui a confirmé, affirmé, d'une manière que finalement Abraham ne pouvait pas ignorer que Dieu lui avait confié une vocation particulière. Et je crois qu'il y a déjà un principe pour nous, et qui peut être un principe pratique, du bon sens, mais c'est tout simple. N'empêche que, on n'est pas toujours à l'écoute. Je pense que Dieu répète, d'autant plus que le changement qui nous est demandé est radical. C'est-à-dire que, effectivement, quand on attend de Dieu une révélation, une confirmation, lorsqu'il y a quelque chose de très radical, de très coûteux, je pense que Dieu répète. Et je vois que lorsque Gédéon a demandé deux signes successifs, Dieu ne s'est pas irrité, en tout cas le texte ne le mentionne pas, au fait que Gédéon demande deux signes successifs. Donc, c'était aussi quelque chose d'assez radical, l'appel de Gédéon et la vocation qu'il avait. Donc, je pense que nous pouvons, nous-mêmes, dans nos propres vies, lorsque nous avons une décision importante, et ça peut toucher une décision dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans différentes choses, je pense que Dieu va répéter, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui cache sa volonté, mais au contraire, il se plaît à la révéler, à la montrer. Je suis aussi dans la lecture des prophètes, des grands prophètes, là, cet été, et je m'aperçois que dans Jérémie, dans Ézéchiel, Dieu répète vraiment, et notamment les menaces de jugement en attendant que son peuple change. Certes, le changement demandé est important, il faudrait éliminer, laisser complètement les idoles, mais Dieu ne laisse pas sa volonté cachée. Et Abraham va répondre par la foi. Abraham va conclure une alliance avec Dieu. Vous savez, cette alliance, c'est lorsque le feu va tomber sur les animaux partagés sur l'autel. Littéralement, il coupe une alliance avec Dieu, hein, voilà, à travers cela. Donc ça c'est frappant, parce que il y a déjà là une part de réponse de sa part. Certes, Dieu a fait, Dieu fournit, Dieu pourvoit, mais en même temps, Abraham répond. Toujours dans cette optique, Abraham exerce la foi. Alors, en quoi est-ce qu'Abraham exerce la foi ? Il exerce dans deux domaines particuliers. D'abord, il accepte les conséquences, c'est-à-dire sa position précaire de nomade. Vous savez que quand on regarde où était Abraham, il était dans le triangle, enfin, fertile, le croissant fertile, l'endroit où il y avait certainement beaucoup de richesses, de prospérité, on pourrait dire une certaine stabilité, au moins au plan économique, là où il était, dans ces vallées du Tigre de l'Euphrate qui sont en Mésopotamie. Et Dieu a appelé Abraham et il l'a mis sur la route, quoi. Abraham est parti, même si Abraham était riche, nous est-il dit quelque part. Peut-être que c'était lorsque son cheptel avait beaucoup prospéré. En tout cas, Abraham a accepté cette position précaire de nomade. On va y revenir à ça parce que c'est un point important dans la foi et je pense que ça concerne aussi la façon dont nous pouvons voir le monde et notre situation à nous. Et puis Abraham est aussi, et ses caractéristiques, quelqu'un qui attend patiemment la réalisation des promesses. Nous lisons dans Hébreux 6, verset 15. Je n'ai pas affiché tous les textes pour ne pas surcharger toute la présentation, puis aussi parce que je crois que c'est bien qu'on soit actif et qu'on feuillette nos Bibles, même si on est à distance et qu'on ne se voit pas. C'est important. Et voilà ce que dit Hébreux 6, 15. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Donc, c'est beau d'être caractérisé dans l'Écriture par la patience. On aimerait pouvoir être cité comme étant quelqu'un de patient. La patience, ce n'est pas quelque chose qui est une caractéristique humaine naturelle. Hein, je pense qu'on le sait tous. Et donc, il suffit de suivre quelqu'un qui roule 10 km heure moins vite que ce qu'on voudrait pour s'en rendre compte. Si on a besoin d'une démonstration. La patience est quelque chose qui ne nous caractérise pas. Et Abraham va exercer la foi en étant patient dans l'attente de ce que Dieu donne. Alors, il obéit même si le prix est élevé, quoi qu'il en coûte. Nomade à 75 ans, donc Hébreux 11 raconte ce départ, donc hein, parti sans savoir où il allait, s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger, donc accepter une situation d'étranger. Je pense que tant qu'on a vécu que en étant national dans notre propre pays, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire que d'être étranger. On discutait avec Guillaume tout à l'heure. En fait, moi, j'ai eu une partie de ma vie juste un an à peu près en Afrique, mais on mesure quand on est dans un autre pays qu'on n'est pas un national. Et quand il y a une petite crise ou quand il y a des tensions vis-à-vis d'une minorité étrangère, ben, on se sent étranger. Et ce n'est pas la même chose que quand on est dans son propre pays. Donc, Abraham a accepté ce prix de ne pas être, on va dire, un citoyen de plein droit, quoi, national, complètement reconnu. Nous voyons aussi dans la Genèse que lorsque Dieu demande à Abraham d'être circoncis en tant que signe de la foi, il est dit, le texte précise que Abraham a obéi le jour même. Hein, je vous lis Genèse 17, 23. C'est frappant la façon dont le texte le dit. Le jour même, il est circoncis le jour même, au verset 23, hein, à propos de son fils Ismaël, tous ceux qui étaient nés, tous ceux qu'il avait achetés, tous les hommes, etc., le jour même, conformément à l'ordre que Dieu lui avait donné. Et c'est redit au verset 26. Le jour même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils, et il est redit le fait que toutes les personnes de sa maison ont été circoncises. Tout le monde a été circoncis ce jour-là. Donc Abraham ne tarde pas dans l'obéissance aux ordres de Dieu. Il y a déjà aussi tout un programme et une réflexion qu'on peut avoir nous, est-ce que quelque part Dieu m'a révélé quelque chose et que je suis en train de tarder sous des prétextes divers à mettre en pratique alors que la révélation est parfaitement claire. Abraham offre Isaac tout en espérant la résurrection, et ça c'est quelque chose que dans mon étude de cette année j'ai revu sous un jour nouveau et que je n'avais pas vu de cette façon-là. Dans Hébreux 11, verset 19, et c'est ce que nous avons lu, il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. Alors, je ne voudrais pas diminuer l'admiration que nous pouvons avoir pour le fait qu'Abraham était prêt à obéir. Mais le texte dit ici, qu'il pensait que Dieu était capable de le ressusciter des morts. Donc peut-être que Abraham pensait que Isaac pourrait mourir et ensuite être ressuscité. On ne sait pas quel est. On n'a pas plus de détails sur la nature de cette espérance d'Abraham dans la résurrection. Mais le texte dit, hein, Hébreux 11, 19, c'est pourquoi il a retrouvé son fils, hein, comme par une sorte de résurrection. On reviendra sur cette question de résurrection plus tard. Ce qui m'intéresse aussi, c'est un parallèle qu'on peut faire à ce stade entre la vie d'Abraham et la vie de Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ a obéi lui aussi, même si le prix était élevé. Et dans un sens, Abraham est un type, est une annonce, une prophétie vivante de la vie de Jésus-Christ, par avance. En effet, Jésus-Christ a offert sa vie sans qu'on la lui arrache, Philippiens 2, verset 6. Il n'avait lui aussi pas de lieu où reposer sa tête lorsque il a des discussions à ce sujet. Il est amené à le dire, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Donc il a accepté une situation précaire dans laquelle il n'avait pas, il n'était pas d'une certaine façon citoyen de plein droit là où il passait. Et puis, il est ressuscité, donc parce que effectivement cette résurrection dans laquelle Abraham espérait, eh bien, elle avait tout son sens par le fait que c'était par avance, elle était possible, cette croyance dans la résurrection dès l'Ancien Testament, elle était possible parce que il y avait en fait la résurrection de Christ qui prouve véritablement la victoire sur la mort. Hein. Donc, résurrection de Christ qui est au centre de l'espérance chrétienne, hein, vous savez, en Corinthiens 15, verset 4, Christ est ressuscité selon les Écritures. Alors, deuxième chose qui concerne Abraham, c'est qu'il séjourne dans le pays promis, mais en tant que nomade. Alors, ça veut dire que Abraham passe dans ce pays qui est le pays de la promesse, mais il va y passer sans pouvoir y séjourner comme citoyen de plein droit. C'est-à-dire, tout ça, il n'y sera que de passage. Alors, d'une part, son séjour dans ce pays promis est malgré tout marqué par sa vie spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il ne fait que passer qu'il n'a pas une marque sur ce pays et qui ne montre pas et ne manifeste pas une foi particulière dans sa vie spirituelle. Et ça, on peut le voir à travers le fait que Abraham bâtit des autels. Alors, on n'a pas des récits, comprenez-moi quand je dis sa vie spirituelle, cette vie spirituelle, on en voit des éléments dans la prière, on sera amené à y revenir, mais on a aussi le fait qu'Abraham bâtit des autels, et que quand on bâtit un autel et qu'on est amené à donner le nom qui est conservé par celui qui a écrit le livre et ensuite qui est conservé comme élément de la géographie, c'est parce que quelqu'un, un homme de foi, est passé là. 12 verset 8, hein, il nous est dit, par exemple, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel à Bethel, hein, voilà, fit appel au nom de l'Éternel, donc hein, la maison de Dieu. Voilà. 13, 4, 13, 18, et puis voilà, ce sont des éléments où on voit que Abraham marque ce passage aux chaînes de Mamré, etc. Ensuite, Abraham va avoir, et nous avons cet élément aussi de la vie spirituelle d'Abraham à travers le fait qu'il intercède. Et il intercède pour notamment le peuple et son neveu Lot et sa famille. Hein, et ça va avoir un résultat plus tard, on va le voir. Alors, en tant que nomade dans ce pays promis, Abraham montre aussi un certain désintéressement. C'est frappant de voir, il ne s'attache pas au lieu ni au bien matériel. Et là, je le mentionne parce que je crois que dans notre propre vie, si on fait le rapport avec notre vie, qu'on essaye de voir l'application et la façon dont on envisage la vie, je pense qu'on a un attachement à des lieux qui nous sont familiers, qui constituent des points de repère pour nous. Également des biens matériels, notre sécurité matérielle dépend d'un certain nombre de choses, de biens auxquels on est attaché, et on peut s'attacher, on peut s'en soucier de manière légitime, hein. Je ne veux pas dire qu'il faille s'en désintéresser ou plutôt ne pas les administrer, mais par contre on n'a pas un intérêt au sens où Abraham aurait pu en avoir dans les circonstances qu'on va voir. Alors, lorsque Abraham est amené à rencontrer Melchisédek, donc ce personnage mystérieux qui annonce quelque part la venue de Jésus-Christ, qui a une sacrificature similaire à celle de Jésus-Christ, c'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Abraham donne la dîme à ce personnage, hein, donc après cette bataille des rois. Il donne la dîme à ce personnage qui est apparu. Il laisse sa propre part au roi de Sodome, 14 verset 23. Et alors, j'ai mis trois petits points là dans la phrase. Pourquoi est-ce que c'est étonnant que Abraham laisse sa propre part au roi de Sodome? Parce que quand on réfléchit à ce qu'était Sodome, on va dire l'usage particulier que les royaumes de Sodome et Gomorre faisaient des personnes, on peut se dire que Abraham devait, entre guillemets, l'avoir mauvaise de laisser des personnes, puisque le roi de Sodome voulait des personnes. Mais le désintéressement d'Abraham est encore supérieur à ça. Il laisse la justice de Dieu se dérouler, d'ailleurs on la verra ensuite à travers le jugement de Sodome et Gomorre, et il est prêt, lui, par désintéressement, à laisser sa part. Et même plus loin, lorsqu'il cherche une propriété funéraire, puisque le seul lieu qu'il peut avoir dans le pays promis, c'est l'endroit où il va enterrer Sarah et où sera lui-même enterré, au champ de Macpéla, eh bien, Abraham insiste pour payer ce champ au prix juste, alors même que la personne voulait lui offrir le champ. Est-ce que Abraham a voulu anticiper des chicanes éventuelles et avoir un contrat d'achat en bonne et due forme? Je n'en sais rien. Toujours est-il que c'est un élément de désintéressement d'Abraham. Là aussi, il aurait pu profiter du cadeau, mais il a choisi d'être vraiment réglo, je dirais, au plan des biens matériels, de ne pas tricher. Et je pense qu'on peut trouver des tas de situations dans la vie quotidienne, dans notre vie autour de nous, où on peut être amené à être réglo. Au plan des biens matériels, à ne pas s'attacher au lieu, ne pas s'attacher aux biens. Je pense aux situations qui sont souvent des causes de tension dans les familles, les histoires d'héritage. D'ailleurs, Jésus a été interpellé par des gens qui disaient « Dis à mon frère de partager l'héritage ». Et je crois que on peut être appelé à imiter Abraham en ayant du désintéressement, sans être attaché au lieu et aux biens matériels, parce qu'on est nomade. Et c'était la condition qu'Abraham avait acceptée dans l'obéissance à l'appel de Dieu. Alors, c'est frappant que assez souvent, les personnages qu'on voit dans des biographies ont des failles. Et je crois que le fait que l'écriture nous montre les failles de certains de ces personnages admirables, et là on est à propos d'Abraham, père des croyants, il nous rassure finalement d'une certaine manière sur l'humanité de ces personnes. Je dirais la même chose d'Élie, hein. Il est dit que Jacques dit qu'il était de la même nature que nous, mais qu'il a prié. Et on voit que Élie était de la même nature que nous. On connaît cette dépression d'Élie qui est relatée dans le premier livre des Rois. Ces moments où Élie a perdu un petit peu la vision et où Dieu lui a la relevé, l'a redressé. Abraham a montré des éléments de faiblesse à travers des situations, notamment la crainte devant Pharaon, à qui il a caché le fait que Sarah était sa femme en faisant croire que c'était sa sœur, pour pas être disons, éliminé, de manière à ce que Pharaon prenne sa femme. Et donc, lorsque Pharaon s'en rend compte, il est reproché à Abraham d'avoir caché ces choses-là. Pharaon le lui reproche. Également, devant Abimélec à Guéra, hein, le même événement se reproduit un peu plus tard. C'est assez frappant. On retrouve la même situation devant Abimélec à Guéra, alors qu'Abimélec n'a pas voulu faire le mal, et parce que, il n'a pas voulu faire le mal, Dieu l'a averti. Et donc c'est assez frappant que finalement, c'est des non-chrétiens qui d'une certaine manière, donnent une leçon aux croyants. Et je crois qu'il faut savoir accepter de temps en temps que les non-chrétiens nous rappellent à nos devoirs quand on a failli, quand on n'a pas été droit et honnête, hein, c'était le cas. Et cette faille dans la vie d'Abraham, elle nous avertit aussi, elle nous avertit à double titre. D'abord parce que ces événements sont effectivement relatés et ils ne sont pas un bon témoignage vis-à-vis de ceux qui sont non-croyants, mais parce que ce mauvais exemple donné à son fils Isaac, alors pourquoi donner à son fils Isaac? Parce que on ne sait pas exactement comment Isaac a eu connaissance ou vent de ces choses-là, mais Abraham fera de même, et devant Abimélec, à Guérar aussi. Et on retrouve l'histoire transmise dans la génération qui suit, cette faille qui, quelque part, a été transmise, puisqu'Isaac a fait la même chose. Donc Abimélec, si c'est bien le même dont il s'agit, mais on peut le penser, a dû se poser des questions sur cette famille, à tout le moins. Alors, troisième chose qui caractérise Abraham, c'est qu'il reçoit une descendance et il bénit ses proches. Alors, Abraham choisit de s'attacher aux personnes. Il y a une formule que j'aime bien, c'est un de mes collègues qui m'a dit ça une fois, il me dit, moi, ce qui est intéressant, c'est les liens plutôt que les biens. Et je trouve que c'est vrai, c'est-à-dire on s'intéresse aux relations avec les autres plutôt qu'aux choses matérielles. Alors, que va faire Abraham et comment va-t-il démontrer son attachement aux personnes? Sur quoi je me base pour affirmer ça? Ben, Abraham va partir en guerre, être victorieux et finalement délivrer Lot. Si nous prenons dans la Genèse, au chapitre 14, vous voyez que les rois se coalisent au début du chapitre 14, et ils se rangent en ordre de bataille, etc. Et il est dit au verset 12, Genèse donc 14, verset 12, « Ils s'emparèrent aussi, les vainqueurs, hein, donc ils se sont emparés des richesses de Sodome et Gomorre, leurs provisions, et s'emparèrent aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abraham, avant de s'en aller, c'est qu'il habitait à Sodome. » Donc voilà déjà le malheur de Lot habitant à Sodome, c'est d'être embarqué dans cette vicissitude où finalement il fait partie des vaincus. Un rescapé va l'annoncer et il est dit, verset 14, donc Genèse 14, 14, « Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, etc. Il poursuit, il divise sa troupe, il les bat, il les poursuit. » Et il ramène toutes les richesses, Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc Abraham est quelqu'un qui bénit les autres, et est victorieux, délivre les autres. Et je me dis, est-ce que dans nos relations d'église, dans nos relations de famille, autour de nous, d'une manière générale, est-ce qu'on fait partie de ceux qui bénissent ceux qui nous sont proches, s'intéressent aux situations, délivrent. Ensuite, Abraham va être une bénédiction pour Lot, il va être une bénédiction pour Lot qui sera, vous le savez, épargné lors du jugement de Sodome et Gomorre. Alors, j'aimerais qu'on lise Genèse 19-29, parce que j'aime beaucoup ce verset. Donc, c'est la fin de la destruction de la ville, hein. Il est dit 19-23, le soleil se levait lorsque Lot entra dans le soir, l'Éternel fit pleuvoir du soufre. Hein, avec cette question de la femme de Lot, on connaît, hein, qui est paralysée, transformée en statue de sel. Il est dit, Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel, au verset 27. Donc Abraham est à l'endroit où il a prié. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre, et sur tout le territoire de la plaine, et il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, c'est pourquoi il fit échapper Lot. Je relis le texte, parce que c'est très frappant. Il se souvint d'Abraham, c'est pourquoi il fit échapper Lot. Donc il y a vraiment le fait d'être une bénédiction pour l'autre, d'avoir intercédé, et d'être écouté, et du coup, d'avoir déclenché une bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est encourageant pour l'intercession. Souvent, on voit la prière, effectivement, avec son côté, on pourrait dire, astreignant, l'aspect de l'effort, l'aspect de la foi, de ne pas voir les résultats, d'intercéder, mais de ne pas voir de résultats, même sur une période longue. Et là, on voit cette relation, par de cause à effet qu'il y a. Dans le jugement, Lot est épargné. Parce que Abraham a intercédé pour lui. Et puis, également, Abraham va tout faire pour protéger le mariage d'Isaac. Lorsque Abraham voit que donc il faut donner une femme à son fils, il demande à son serviteur, et de manière solennelle, hein, et on le voit dans 24, verset 3, dans la Genèse, toujours, hein, ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. Le serviteur objecte, mais Abraham insiste, hein, insiste en lui disant, bon, on verra ce qu'elle dit, mais en tout cas, tu vas pas emmener à chercher à mon fils une femme qui ne soit pas dans mon pays. Donc il y a ce souhait de, je pense, de vouloir protéger Isaac de l'idolâtrie, hein, que Abraham constatait autour de lui. ça fait partie des, de ce que Abraham souhaite. Alors, bien sûr que culturellement, les choses ont changé. On ne peut pas, aujourd'hui, à notre époque, arranger un mariage comme à l'époque où Abraham le faisait, selon les coutumes habituelles. C'est évident, mais il y a une transcription, certainement, au fait qu'on puisse bénir les autres et favoriser leur bien-être spirituel. C'est en tout cas ce qu'Abraham a voulu faire. Une quatrième chose qui me paraît importante, c'est qu'Abraham espère en la vie éternelle. Alors, pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui me permet de l'affirmer? Deux éléments essentiels. Si nous réfléchissons à quels sont les éléments, finalement, concrets, tangibles, qui correspondent à la vie éternelle, il y en a deux. Il y a, premièrement, l'espérance dans la résurrection des corps, parce que la vie éternelle, c'est bien possible qu'à condition de recevoir un corps qui soit un corps incorruptible, puisque notre corps mortel est voué à la destruction. Et Abraham espère dans cette résurrection des corps. Nous le voyons dans cet épisode de l'offrande d'Isaac en sacrifice. On a rappelé tout à l'heure le fait que l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il s'agissait donc d'une croyance dans la résurrection. Cette résurrection des corps, elle est bien évidemment, elle fait partie de l'espérance chrétienne, et je dirais qu'on l'a dans le livre des Actes et 1 Corinthiens 15, c'est vraiment la base de l'espérance chrétienne. Vous savez que dans le livre des Actes, lorsqu'il y a ces prédications, dès le début du livre des Actes, on a cette espérance à travers le psaume de David sur le fait que son corps ne voit pas la corruption. On peut lire d'ailleurs Actes 2, versets 25 et 28, parce que c'est l'occasion de nous rappeler d'un élément fondamental de notre espérance. C'est jamais trop de s'en rappeler. 25 à 28, voilà. Donc David dit à propos de lui, il s'agit de la résurrection de Christ, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, etc. Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. » Tu m'as fait connaître, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Voilà, donc la résurrection de Christ, verset 31, prévu, annoncé. Et ensuite, cette résurrection de Christ, bien sûr, 1 Corinthiens 15, est la base de notre propre résurrection, parce que si Christ est ressuscité, alors nous sommes ressuscités avec lui. Je ne reviens pas sur 1 Corinthiens 15, mais qui est un texte très, très central et très glorieux, je dirais, sur l'espérance que nous avons dans la résurrection. Donc, résurrection des corps. Et puis Abraham espère en la cité céleste, il attend la cité céleste. Et je dirais que c'est aussi, pour moi, le deuxième pilier de la vie éternelle, c'est que certes on sera ressuscité, mais ensuite on sera avec Dieu dans un lieu préparé par lui. Donc c'est attesté par Hébreux 11, on l'a lu dans les versets 13 à 16, hein, vous vous souvenez, il attendait cette cité, hein, il est dit, voilà, il aura préparé une cité, la patrie céleste. C'est également une promesse de Jésus-Christ à ses disciples. Nous savons qu'il nous a dit « je vous laisse, mais je vais vous préparer une place et je reviendrai, je vous prendrai avec moi, vous serez avec moi. » Donc, vous voyez que cette espérance chrétienne, elle continue, elle prolonge ce que Abraham avait déjà comme espérance en tant que nomade. Hein, donc, nomade, mais espérant la cité céleste. Et ce qui fait accepter la condition de nomade, c'est le fait d'espérer dans la cité céleste, parce qu'on est justement étranger et voyageur sur la terre. C'est ce qui est dit dans Hébreux 11, verset 13, nous l'avons lu, ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et ce point est tellement important que cette promesse de la cité céleste, elle est reprise dans tout le reste du Nouveau Testament. J'ai cité là quelques textes seulement, de Philippiens à Tite. Je n'ai pas cité dans les épîtres de Pierre et de Jean, mais il y a aussi de nombreux exemples. Et puis, les deux derniers chapitres de l'Écriture sont consacrés à la description de cette résidence, cette villégiature céleste, la façon dont les choses se passeront dans ce royaume céleste, éternel, incorruptible, que Dieu prépare. Et donc Abraham est dans cette espérance. même si il est mort sans avoir reçu, 11 verset 13, Hébreux, sans avoir reçu les biens promis, mais vu et salué de loin. Alors, une chose peut-être qui est moins agréable ou moins facile à accepter, c'est le fait qu'Abraham meurt sans avoir tout reçu. Alors, je dis facile à accepter concernant Abraham, après tout, c'est Abraham, mais quand c'est notre propre vie, on a du mal. Et c'est-à-dire qu'on se dit, Seigneur, je n'ai pas tout reçu, j'aurais aimé ceci, j'aurais aimé cela, je t'ai prié pour ci, je t'ai prié pour ça, je n'ai pas tout reçu. Certains d'entre nous vont mourir sans avoir jamais eu une période de vie, peut-être tranquille, sans ennui de santé, ou avec une vie familiale qui se passe bien, ou une vie professionnelle. On peut se dire que finalement, on a accumulé un certain nombre d'échecs. On peut être dans cette situation ce matin et se dire, mais Seigneur, c'est bien joli cette vie d'Abraham, mais Abraham, lui, Dieu l'a béni. Oui, Dieu l'a béni, mais regardons quand même de plus près. Et c'est là que ça vaut la peine de se pencher sur sa vie. Certes, Abraham a reçu la descendance promise. C'est-à-dire qu'on peut penser que effectivement, donc il a reçu, alors, il a reçu Isaac. Je vous rappelle qu'il avait avant ça reçu Ismaël et que ça a été une cause de friction déjà dans son temps et que ça continue. Hein, les peuples issus d'Ismaël ont été opposés et ennemis des peuples issus d'Isaac. La suite de l'Ancien Testament le démontre. Probablement qu'Abraham a vu aussi les fils d'Isaac et les fils d'Ismaël, donc il a pu assister d'une certaine manière à la réalisation de la promesse. On n'a pas de description de scène de famille précise impliquant Abraham et ses descendants, mais on peut, réunion de famille par exemple, mais on peut le penser. Mais, et c'est là qu'on voit que ça faisait partie du package, il fallait l'accepter, mais Abraham est resté nomade toute sa vie. Il est resté nomade toute sa vie, il n'a pas vu le peuple établi dans la terre promise, parce qu'il fallait un certain nombre de pérégrinations qui lui avaient d'ailleurs été annoncées, avec y compris la captivité qui aurait lieu, nous le savons nous, en Égypte. Et puis, sa seule propriété en Canaan est le champ funéraire où il est enseveli aux côtés de Sarah. Alors pourquoi, on peut s'interroger, rester un moment sur ce point, pourquoi est-ce qu'Abraham n'a pas, finalement, a pas pu voir tout cela? Eh bien parce qu'il y avait des pérégrinations qui devaient avoir lieu avant qu'Abraham rentre en terre promise. En d'autres termes, il fallait qu'il y ait le salut et la sortie d'Égypte. Et ça nous renseigne sur la raison pour laquelle finalement Dieu fait des promesses, mais ne les accomplit pas tout de suite, comme certainement nous on le voudrait dans notre impatience. Et ça m'amène à revenir à ces versets 39 et 40 qu'on a lus, mais que je vais relire à la fin du chapitre 11 des Hébreux. On est toujours sur ce texte central. Hein. Tout cela, et donc ça inclut Abraham et Sarah, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, donc il n'y a pas de culpabilité ou de problème particulier pour lequel, lié à la foi de ces personnes pour lesquelles Dieu a ralenti la promesse. Mais il est dit, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Et là, je crois qu'on a la réponse un petit peu dans le même esprit que ce que l'apôtre Pierre indique en disant que si Dieu retarde, on pourrait dire le jugement, la fin du monde, c'est parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Et je crois que Abraham a accepté par la foi de pas voir complètement parce qu'il fallait que le peuple fasse un détour et que le salut vienne, la sortie d'Égypte. Et je crois que dans notre parcours de foi, il faut accepter ces choses, de dire je ne sais pas tout, Dieu sait ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il retarde, pourquoi est-ce qu'il ne donne pas tout de suite, finalement pourquoi est-ce que je ne suis pas tout de suite au ciel, pourquoi est-ce que Dieu ne manifeste pas tout de suite son retour. Eh bien, c'est parce que Dieu a une intention, et cette intention-là, elle est bien dite dans le passage que nous venons de lire. ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis parce que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Alors, voilà une raison de louer le Seigneur, de remercier le Seigneur. Seigneur, tu as finalement fait que ces hommes de Dieu qui ont exercé la foi soient pas complètement, voient pas complètement tout parce que tu pensais à nous. Parce que tu savais que nous, on allait venir et qu'on avait, nous aussi, une part, on était appelés, nous aussi, à cette perfection, à cette sanctification, à ce salut. Et pour moi, c'est très émouvant, je trouve, c'est très touchant de penser que Dieu, sur des siècles et des siècles, a continué dans cet esprit-là, qu'il a retardé les choses jusqu'à cette époque où je peux vivre et recevoir son salut. Alors, est-ce que je suis un Abraham du 21e siècle? C'est la question que je peux me poser. Est-ce que je peux dire que je crois et j'obéis quoi qu'il en coûte? Ou est-ce que je suis plutôt comme ce monsieur peureux, hein? Est-ce que je séjourne dans le royaume de Dieu, mais en étant nomade sur la terre, en assumant mes erreurs? Alors, je n'ai pas voulu mettre monsieur peureux et monsieur courageux parce que je trouvais que ça faisait un peu trop cliché. Mais par contre, j'ai trouvé intéressant qu'il existe apparemment un livre qui s'appelle « Le courage de monsieur peureux ». Et je me dis qu'on est tous des peureux d'une certaine façon, mais qu'on peut aussi trouver, recevoir du courage et pouvoir séjourner, assumer nos erreurs, mais marcher par la foi comme Abraham l'a fait. Une autre question que nous pose cette vie d'Abraham, je suis en train de reprendre les cinq points qu'on a vus, les cinq chapitres. Est-ce que nous engendrons spirituellement, nous bénissons nos prochains? Je dis bien engendrons spirituellement parce que certains d'entre nous sont appelés à avoir une famille, des enfants et à pouvoir le faire dans la chair. Mais dans d'autres cas de figure, on est seulement on va être seulement des parents spirituels parce que les circonstances ont fait que on n'a pas forcément pu transmettre ça dans une famille selon la chair. Mais la question est là, est-ce que j'engendre spirituellement? Est-ce que je développe la vie spirituelle des autres? Est-ce que je bénis mes proches? Ça, c'est une question pratique. Qu'est-ce qui marque mes interactions avec les autres, ma vie au contact des autres? Est-ce que j'espère dans la vie éternelle comme Abraham espérait? C'est-à-dire, souvenez-vous, la résurrection des corps et une cité céleste en étant dans la présence de Dieu, une cité préparée par Dieu que Dieu envoie pour nous prendre avec lui. Et puis dans ce pèlerinage, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur reviendra et comment il le fera, mais il est possible que je passe par la mort physique avant le retour du Seigneur. Est-ce que je suis prêt à mourir sans avoir tout reçu? D'une certaine manière, la boucle n'étant pas complètement bouclée, est-ce que je suis prêt à accepter ça parce que Dieu a un plan de salut qui veut encore prolonger et étendre à d'autres personnes après moi? Et donc je vais, à l'image d'Abraham, voir et saluer de loin les choses que je serai amené à vivre plus tard, mais en tout cas pas au cours de cette vie terrestre. Et donc accepter d'être
Voilà, Jean-Louis a apparemment, ça a bugué chez lui. Je pense que vous m'entendez là, hein, Sébastien. Oui, vous m'entendez. Jean-Louis, je ne sais pas si tu m'entends, mais ça devrait peut-être revenir. C'est bien le courage de monsieur Paul.
Oui.